Depuis le 27 octobre et jusqu'au 30 mars, l'exposition Marseille Artistes Associés explore 30 ans de pratique de l'art contemporain à Marseille. Grenouille associée aux artistes, retour sur 30 ans d'art contemporain à Marseille, sur les 3-8. Premier plateau de cette thématique antenne où Grenouille s'associe aux artistes associés et profite de cette exposition pour dresser un état des lieux, des pratiques et de la diffusion de l'art dit contemporain. Un premier plateau en forme de rétrospective, un coup de projecteur sur ces 30 années, 1977-2007, 30 glorieuses peut-être, on verra. En tout cas, pour les évoquer, j'accueille sur ce plateau François Bazzoli, historien et critique d'art, auteur et professeur à l'École des Beaux-Arts de Lumini. Piotr Klemensiewicz, artiste qui participe au musée Cantini à un dispositif intitulé « Avec les maîtres », un dialogue avec les œuvres des collections des musées de Marseille. À propos des musées de Marseille, leur directrice Marie-Paul Vial devait être avec nous sur ce plateau, mais nous a fait savoir hier qu'un empêchement nous priverait de sa présence. Nous le regrettons, évidemment. Mais bon, tant pis pour les musées, place à un regard sans doute plus actuel sur cette triple décade, avec Pedro Morais, critique d'art, qui sera des nôtres dans quelques minutes, le temps que les embouteillages le libèrent et lui permettent de nous rejoindre sur ce plateau des 3-8. Bonjour et bienvenue à tous, du moins bonjour. Ceux qui sont déjà arrivés, François et Piotr. 1977, une année de transition, de nombreux courants ayant marqué une vision moderne, progressive de l'art, s'essouffle et laisse entrevoir un « nos futurs » qui explose, en tout cas musicalement, à cette époque avec le mouvement punk. L'art est depuis la fin des années 60, dans une période qu'on a longtemps affublée du vocable de post-moderne. Vous nous direz si ce terme est toujours pertinent, si tant soit qu'il l'ait jamais été. En tout cas, dans cette période, on y a observé des courants signifiants comme Fluxus, le minimalisme ou post-minimalisme, l'art conceptuel, et puis à la fin de cette période, l'intermédia et le multimédia. Y émergent des développements techniques et audiovisuels. François Bazzoli, peut-être pour commencer cette discussion, on pourrait compléter ou peut-être amender la petite présentation que j'ai faite sur cette période 1977-2007. Selon vous, quels artistes ou quels mouvements artistiques vous ont semblé signifiants et peut-être quels échos ont-ils eu à Marseille, dans notre cité ?
Bon, d'abord je voudrais, mais ça c'est mon côté historien d'art tatillon, revenir sur le fait que les dates 77-2007 sont peut-être un tout petit peu étroites pour Marseille. Ce qui se commence par rapport à l'art contemporain aux associations, c'est 75. C'est-à-dire que bien sûr, 75-2007, ça ne fait pas bien, ça ne rime pas, mais l'apparition de l'ADA, qui est la première association gérée par des artistes contemporains à peine sortis de l'École des Beaux-Arts de Marseille, c'est 1975, rue Horace Bertin. Et c'est assez important de signaler des adresses, puisque les associations à Marseille, les artistes contemporains à Marseille ne se contentent pas d'un quartier, d'un lieu, mais envahissent la ville depuis les quartiers nord jusqu'au quartier sud. Et le centre est occupé, mais peut-être pas tant que ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce filet, ce réseau qui se crée. Les associations en général ont des contacts entre elles. Et l'art qui se passe, c'est d'abord, par rapport à l'ADA, par rapport à 75, les retombées de support surface. C'est-à-dire que ces gens-là ont eu comme professeur à l'école Viala, Jacquard ou Charolaine, c'est-à-dire des gens qui avaient été impliqués dans des mouvements régionaux. On va dire que Support Surface est un mouvement régional et que c'est d'abord ceux qui retombent. un geste libre.
Peut-être en une phrase décrire ce qu'est le mouvement support surface.
Oui, bien sûr, je vais le faire d'ailleurs. C'est-à-dire un mouvement où les pratiques techniques passent avant l'inspiration ou le motif. On peut répéter millions de fois la même forme, comme le fait Viala, mais ce dont on parle, c'est la peinture. C'est-à-dire que ce qui change de forme à forme, c'est le rapport pictural, la technique picturale, l'invention picturale. Et ça, ça a été un souffle tout à fait extraordinaire, puisque ça continuait les pratiques américaines qu'on appelait d'abstraction analytique, où on défaisait la toile du châssis, où on posait la toile par terre, où tout d'un coup, le corps entrait dans la peinture avec une danse, une liberté tout à fait extraordinaire.
Peut-être un autre mouvement né dans les années 60, à la fin des années 60, je crois, et créé par Mancunias, Fluxus, qui a eu un grand écho dans la région aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être que par rapport à, je vais dire un mot un peu dangereux, l'académie, puisque l'académie, c'est aussi ce qu'on enseigne dans les académies, qui sont les écoles d'art. L'enseignement de Fluxus, mais par la nature même du mouvement, ne s'est introduit par Ben que beaucoup plus tard. Mmh. Et il n'a pas eu un effet direct. Ou si effet il y a, il retombe plutôt dans les années 80. Et sinon, les autres mouvements, c'est tout ce qui concerne l'abstraction, c'est-à-dire des systèmes libératoires par rapport à l'image. Et au début des années 80, c'est encore un mouvement régional, c'est la figuration libre, hein, où avec Combas à Montpellier, Di Rosa à Sète et autres, il y a là aussi des pratiques libératoires sur le gros mot, l'image obscène, la figuration immédiate, etc.
Quelques grandes figures aussi d'artistes marseillais, aujourd'hui disparus, on peut peut-être évoquer juste en deux mots Baquet.
Oui, tout à fait.
Baquet.
Encore quelqu'un qui sort de l'école des Beaux-Arts de Marseille, peut-être que cela ne se voit pas réellement dans la manifestation Marseille Artistes Associés, mais Richard Baquet est quelqu'un qui introduit dans ces années 80 l'idée de bricolage. Il n'est pas le seul, il a commencé à être Rauschenberg et les grands américains néo-dadaïstes, mais il bricole la société, il bricole la télé, le train, l'avion, toutes sortes de moyens comme ça qui deviennent l'automobile, qui deviennent des jeux et des puzzles, et donc il va transformer comme ça au gré d'une grande fantaisie.
Piotr Klementsiewicz, vous êtes peintre. Peut-être votre regard sur cette période 1977 ou 1975-2007 et les grands courants artistiques qui ont trouvé ici un écho ou bien même qui sont nés dans cette région.
Oui, moi en 1975 j'étais étudiant aux Beaux-Arts et j'ai eu comme professeur donc Viala et j'ai rencontré Viala et d'autres et que vous avez cité, et j'ai été étudiant en même temps que d'autres artistes dont vous venez parler, comme Richard Baquet ou Gérard Tracandi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas témoigner trop de cette période. J'étais étudiant, et la réalité, je veux dire, à l'extérieur de l'école a commencé un peu plus tard. Mais ce que je voulais, par rapport à votre présentation, dire deux choses. En ce qui me concerne, j'ai quitté assez tôt le réseau d'associations d'artistes. J'ai répondu à Michel Henrici à l'exposition qui m'a présenté s'appelant « Cher maître » et je trouvais très intéressant la confrontation avec les œuvres du musée. Je ne savais pas que l'exposition s'appellerait « Marseille artistes associés ». Et je crois que
là, pour préciser, avec les maîtres est un élément de l'ensemble
oui.
qui s'intitule « Marseille
oui,
artistes
ça, associés ». Ça, c'est l'exposition dans laquelle j'ai répondu. En revanche, l'exposition Marseille Artistes Associés pourrait s'appeler Marseille Artistes Association. Pour ma part, je vous dis, j'ai quitté très tôt, pour des raisons qui sont des raisons artistiques et politiques, le système associatif. Le témoignage que je peux faire, c'est que en ce qui concerne le rapport à des mouvements, comme vous citez, figuration libre ou support surface, je crois qu'ils ont eu un point commun. Ils ne faisaient pas partie d'un système associatif. Je pense qu'au contraire, je ne veux pas tout de suite rentrer dans la polémique, mais la politique de l'association a fait qu'on n'a plus parlé de mouvements artistiques autour de certains médiums comme la peinture et les peintres à Marseille. ou les gens comme Bacquier et tous les autres artistes qui s'attachent à ces mouvements-là, mais on les a réunis autour d'associations. C'est pour ça que j'ai quitté les associations. Elles n'avaient pas de sens artistique, elles n'avaient qu'un sens culturel. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça c'est un détail que je voulais donner, préciser. Et en ce qui concerne le postmodernisme, je vais vous dire que je pense pour moi c'est un terme très confortable. Parce que ça m'a dédouané, libéré, bien que j'ai reçu une éducation artistique d'artistes qui faisaient partie, pas d'associations, je le répète, mais de mouvements artistiques, ça m'a permis de me dédouaner de tout un poids d'histoire, de prendre les rencontres que je faisais dans l'histoire de l'art, dans la chronologie qu'elle venait, et non pas en réaction ou avec l'ambition de suivre ou poursuivre des mouvements.
Sur cette idée évoquée par Piotr Klemensiewicz à l'instant, François Bazzoli, l'art est surtout représenté à Marseille par des associations, par des regroupements, des associations qui sont là critiquées. Est-ce que selon vous, pourquoi est-ce qu'on a si peu d'artistes isolés, d'artistes phares? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de se regrouper en ateliers, en associations? Ça vient d'où?
Je pense que c'est d'abord une défense de son propre statut. Un artiste est quand même la seule personne, le seul travailleur au monde à ne recevoir aucun centime de son travail. Ça, je crois qu'il faut le dire. Et que l'association permet parfois d'avoir des lieux de travail en même temps que l'on fait un travail à partir de soi et à partir des cercles concentriques d'artistes pour montrer et pour éduquer. L'association, ce n'est rien, enfin ça n'existe pas si on ne précise pas à quoi elle sert. Il y a dans les associations qui sont montrées ici des associations d'ordre pédagogique, d'autres de travail social, d'autres de travail artistique, d'autres, tant pis, je vais me faire des ennemis, d'autopublicité. Et une association ne ressemble pas à une autre. Parler des associations, c'est comme, je ne sais pas, parler des courgettes. Peut-être qu'il y a des personnalités de courgettes qu'on ne voit pas.
Quelques-unes, effectivement, comportent des grosses légumes, peut-être.
Bah, exactement.
On va peut-être parler des galeries.
Les courgettes se vendent et se transportent en cagettes.
On va peut-être parler, après les associations, des galeries dans cette période 1977-2007. Il y a évidemment des lieux historiques, des personnes historiques. On peut évoquer le travail de Pélas, Roger Pélas. Une courte intervention sonore qui n'était pas, appelons ça une performance. Hein, François?
Oui, c'était un intermède musical.
Voilà, on va revenir sur cette question des galeries, peut-être quelques-unes qui sont historiques. Le Roger Pélas et puis la galerie Athanor, si tu peux nous en dire quelques mots.
Oui, bien sûr. Ce sont des... Là aussi, je ne sais pas si c'est comparable entre Jean-Pierre Alice faisant une galerie dans les locaux de son usine à bois, boulevard Onfroid, et Roger Pélas partant...
Jean-Pierre Alice, c'est la galerie Athanor.
Oui, c'est ça. Il faudrait que j'apprécie Roger Pélas, dont la galerie Roger Pélas, pour ceux qui n'auraient pas compris, décédé maintenant, la galerie et Roger Pélas sont décédés à peu près en même temps. Ne se situe pas sur le même plan. Jean-Pierre Alice s'est d'abord montré des passions, des artistes qu'il rencontre au moment où il crée sa galerie, et il est déjà assez âgé lorsqu'il crée sa galerie, alors que Roger Pélas a déjà un but d'ordre commercial, même si l'ARCA, qui précède la galerie Roger Pélas, est aussi une association. Ce qui manque d'ailleurs dans l'exposition Marseille Artistes Associés, c'est justement l'historique des associations. Et on voit comment certaines disparaissent en n'ayant pas dépassé les limites qu'elles s'étaient imposées, et comment d'autres se transforment jusqu'à créer une foire internationale limitée internationalement, mais foire quand même. Donc il y a là des choses incomparables, mais il n'y a pas que... Il y a aussi d'autres galeries. Je trouve tout à fait étonnant que lorsqu'on parle galeries, il y ait des galeries dites contemporaines et les autres. Il y a à Marseille un grand nombre de galeries qui vont de magasins d'encadrement galeries jusqu'à des galeries qui montrent un art que l'on imaginerait beaucoup plus sage, mais qui font un vrai travail aussi. La galerie Sordini est aussi une vraie galerie. même si le travail qu'elle montre peut sembler soit dépassé, soit non contemporain.
Dans cette évocation chronologique de cette triple décade qu'on nous propose, 1977-2007, à la fin de cette période, on voit arriver quelque chose qui pourrait apparaître comme une rupture. C'est l'apparition à la fois des arts numériques et en même temps du travail en réseau. Apparition induite évidemment par des progrès techniques, par l'influence et l'usage de l'ordinateur et des réseaux. Est-ce que, Piotr, selon vous, c'est un moment de rupture dans la pratique de l'art? C'est arrivé de l'art vidéo et puis ensuite des arts numériques? Ou bien est-ce que c'est une continuité?
Alors moi, je pense que c'est pas pour contrarier ni une rupture ni une continuité. Je pense que c'est un bonus. La lutte ou l'opposition que font certaines personnes sur les registres de production d'œuvres, que ce soit le médium plus classique qu'est la toile ou celui du support informatique, c'est un peu le résultat de toutes ces contingences de dans quel rapport je me situe en tant qu'artiste, est-ce que je fais partie du tissu institutionnel, du tissu privé, etc. Je trouve ça désuet. Je pense que tous les artistes, qu'ils soient dans une catégorie de production plus ou moins conventionnelle, peuvent avoir utilisé aujourd'hui ponctuellement ou d'une manière plus prioritaire des nouveaux outils. Mais je me situe pas là-dedans. Au Beaux-Arts, il y a des gens qui ont 20 ans qui s'inscrivent pour faire de la peinture et qui ont contact et qui sont très conscients dans la réalité dans laquelle... Et ils font pas un choix de religion, ils font pas un choix de catégorie. Donc... Il y a eu à un moment donné cette spéculation sur l'art qui serait branché. On a inventé le mot nouveau. Le mot nouveau existait, mais on l'a réinventé comme s'il n'existait pas. Nouvelle technologie, nouveau support. Moi, je pense que tout existait avant et je rentre pas là-dedans. Je suis un peu fâché, même des fois je vois l'écart que dans lequel on place les générations dans cette ville, justement parce qu'elle est le fait d'un système un peu hiérarchisé et de mode sur le et je crois que là aussi c'est des outils pratiques et je pense plutôt du plus que de la rupture.
On se retrouve dans quelques secondes pour continuer cette discussion. On va aborder la question du marché de l'art avec Piotr, François et peut-être Pedro s'il nous a rejoint. Entre-temps, en attendant, on écoute quelques secondes de son. Et associé un plateau rétrospectif sur 30 ans d'art contemporain à Marseille. Piotr, on va continuer cette discussion amorcée pour évoquer, après cette mutation, à la fin du XXe siècle, la mutation du marché qui est sûrement parallèle. On passe d'un marché de collectionneurs à un marché d'institutions. C'est ce qui paraît très signifiant dans ces années 80. On peut évoquer la patte à ce moment-là d'un célèbre ministre de la Culture, Jack Lang, et de sa manière de promouvoir un art au travers des différentes institutions culturelles, politiques qui étaient, selon certains, très positives, selon d'autres, au contraire, très critiquable, un peu paillette. Comment est-ce que avec le recul, vous l'apercevez ?
Moi, je l'aperçois comme un échec absolu. Je crois que les recours, justement, dont on parlait, à des structures de groupes, on masque toujours la réalité économique de la production artistique. Une fois de plus, on recouvre ça avec le mot culture. La question de l'économie d'un artiste, elle est comme celle d'un jeune plombier. Sauf que le jeune plombier a un rapport plus simple avec son banquier, il peut faire des prêts, des choses comme ça. Et ici, on n'a pas de rapport avec des banques. On a un rapport tout de suite avec l'argent soviétique, avec l'argent de tous. Et on a ce droit, en tant qu'artiste, de demander l'argent de tous pour exister. Et là, je pense que c'est une erreur grave. Donc, je pense que le marché de l'art, et Marseille est un peu symptomatique de ça, on est considéré comme collectionneur que si on a des œuvres chez soi de l'institution, reconnues par les institutions, sinon on l'est pas. On a une galerie institutionnelle, donc subventionnée, que si on a des artistes qui suivent ce courant-là et cette esthétique-là. Et je ne pense pas que les résultats, et moi je peux en témoigner sur Marseille, ne soient pas des résultats positifs. 25 ou 30 ans de cette politique n'ont pas donné des résultats. Sur le plan économique, je connais très peu d'artistes qui vivent de leur art à Marseille. Et malheureusement, on est obligé de bouger, on va dire, comme s'immigrer là-dedans. Et il y a le potentiel économique dans cette ville. C'est indéniable. Et la question de l'économie de l'art, moi j'ai eu des expériences, heureusement très jeunes, très tôt, sans savoir ce que c'était, pour sortir de ça tout de suite.
Sur peut-être cette question des marchés, la question des publics, évidemment, est-ce que vous avez tous les deux, François Bazzoli et Piotr Klementsiewicz, l'impression que le public de l'art a changé ? Indépendamment de la question de marché, hein, des collections et des collectionneurs, est-ce que le public a changé ?
Pour un historien d'art, c'est une des questions les plus difficiles qui soient, puisque il n'y a que très peu de temps que l'histoire de l'art s'occupe de l'histoire du goût, c'est-à-dire que va voir le public, qu'est-ce qu'il aime au moment où apparaît Rauschenberg. En général, ce n'est pas Rauschenberg, mais c'est des peintres du début du siècle. C'est une question sur le décalage. Et il dit bien sûr que introduire l'art au lycée, ce qui ne se fait pas, on en parlait il y a 40 ans lorsque je faisais mes études, ça devait être tout à fait imminent et c'est encore tout à fait imminent. Donc j'imagine que dans 40 ans, on reviendra faire un débat là-dessus et que ça ne sera toujours pas fait. En Italie, l'art est introduit dans les écoles très tôt et on voit en effet des enfants, des familles se promener dans des musées d'art contemporain comme le château de Rivoli. En France, il y a bien sûr heureusement mis en place des visites, des animations pour les enfants dès la maternelle. Ça change un peu le rapport au public, mais ça ne sera jamais ce que c'était par exemple en 1850, où lorsqu'il y avait des salons en France, des millions, je dis bien des millions de spectateurs se déplaçaient pour voir les derniers Delacroix, les derniers Ingres ou les derniers tableaux des maîtres-pompiers. Et en cela, il avait une ouverture totale de l'art. Il y a eu un rétrécissement, sans doute que le romantisme a collé à l'art, la psychologie et toutes sortes de choses ont rétréci l'idée d'art et l'ont amené à uniquement des gens qui seraient impliqués. Et maintenant, on essaie de réouvrir quelque chose, mais c'est une tentative de sauvetage de 150 ans de dérive.
Un marché de l'art, une économie de l'art, une évolution de cette économie qu'on a l'impression de constater très différentielle selon les secteurs artistiques dont il est question. Ainsi, on a pu parler d'industrie de la musique, même si aujourd'hui elle est en difficulté d'ailleurs, mais on n'a jamais parlé d'industrie de la peinture ou d'industrie de l'image. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le statut social des artistes varie selon le domaine dans lequel ils interviennent. Les plasticiens, par exemple, ont un statut qui est souvent fort, fort difficile. Si on le compare par exemple à celui des musiciens ou à celui des comédiens qui lui est entouré de quelques... Enfin, on ne sait pas encore pour combien de temps d'ailleurs, mais qui bénéficie encore d'un régime un peu plus protecteur. Quel est votre sentiment aux uns et aux autres sur ce statut social de l'artiste plasticien, Piotr?
Moi je constate toujours qu'il y a plus de gens dans les salles de théâtre que dans les vernissages de galeries ou de musées. Et donc là, il y a une réflexion parce qu'on dépend des mêmes ministères. Parfois, on a affaire à des gens qui font des carrières politiques, qui circulent d'un à l'autre sur 10 ans. Et je pense que c'est des choses très différentes. On a mis la question de l'art et non de la culture, je répète, dans des systèmes politiques qui, à mon avis, sont pas compatibles. Je peux témoigner d'une chose. J'étais à Biennale de Gwangju en Corée du Sud à plusieurs reprises et La biennale est organisée de manière très différente que les biennales en Europe. C'est-à-dire que, si je veux faire un exemple très grossier, c'est comme si on mélange l'inauguration de nouvelles attractions à Euro Disney avec la biennale de Venise en même temps, le même jour, le même soir, dans le même lieu. Il y a encore des choses qui choquent ici en France, mais on se complaît, je pense, dans ces choses. On se complaît dans ces non-dits et dans ces résistances au populaire, à la grande circulation de gens qui viendraient voir des biennales ou des choses comme ça. Des fois, les prix sont prohibitifs. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut, moi, je pense, dans ce pays. Et il y a des endroits où des familles, effectivement, visitent des foires, des biennales et des choses comme ça. C'est pas encore le cas ici.
Pedro Moraes nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Pedro.
Bonjour.
Je rappelle que tu es journaliste, critique d'art et impliqué dans plusieurs structures de production et de diffusion. Je pense notamment au RIAM, Rencontre Internationale des Arts Multimédia. Tu représentes un peu, du moins sur ce plateau, une nouvelle génération d'acteurs culturels. Alors peut-être, quel regard portes-tu, toi, sur cette triple décade 1977-2007 et sur la façon dont on la met en lumière au travers de cette exposition? Un regard critique, j'imagine.
À ce niveau-là, je pense que ça va être assez surprenant. Je n'en cache pas que je trouve que c'est une exposition qui peut produire. C'est un plaisir parce que c'est effectivement disparate, confus. C'est un bordel monstrueux, absolument pas du tout cohérent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas aucune réflexion sur l'ensemble. Mais dans ça, on trouve tout de même finalement ce qui est la scène marseillaise, c'est-à-dire le fait que ça soit contradictoire, conflictuel par moment. À ce niveau-là, je pense que je pourrais pas. Ça serait vraiment. Je pense que à ce niveau-là, il faut le dire, constater que tout de même il y a ce plaisir-là. Après, comme les choses ne sont pas innocentes, le fait effectivement, c'est que imaginez tout simplement de faire un bilan de cette nature-là, je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis désolé, mais du genre de 1917, déjà pourquoi se poser cette date-là, précisément, j'imagine que Jean-François Vazelis a dû parler. Effectivement, le critère qui a été donné, il est très vague, ça concerne une étude qui a été faite par une association, mais bon, enfin, c'est... Mais je comprends, on va dire, disons, c'était les derniers 30 ans. Le fait, c'est que ces 30 ans ne sont absolument pas évoqués dans l'ensemble des expositions, même si effectivement, c'était peut-être pas ça le problème, si on dit tout simplement que c'est un état des lieux, plus ou moins, de choses qui sont faites. Le fait, c'est que, effectivement, on attend, si vous voulez, c'est que le moment où on dit que c'est effectivement la seule grande exposition d'art contemporain à Marseille, dans les années à venir, ça veut dire qu'on n'aura pas autre avec un budget pareil. Effectivement, on pourrait imaginer les choses autrement, peut-être avec un temps différent de réflexion, en engageant précisément des personnes, peut-être, qui réfléchissent aussi avec une certaine distance par rapport à ce qui s'est passé, soit sous ces 30 ans, soit actuellement, ce qui se passe actuellement à Marseille.
On a évoqué tout à l'heure avec François et Piotr la chronologie de ces 30 années et je me posais la question de savoir si la révolution numérique, enfin du moins ce qui est appelé révolution numérique, l'apparition en tout cas des arts numériques et du travail en réseau avait été une rupture dans la pratique des arts ou s'il s'agissait d'une continuité. Et Piotr répondait que c'était ni l'un ni l'autre. Quel est ton sentiment à toi?
Moi je pense que ça ne représente aucune rupture. Au sens où, effectivement, les artistes sont appropriés les moyens qu'ils avaient à sa disposition à chaque époque. Et si, en plus, si vous voulez, même conscient des moyens qu'on nous proposait, rester attaché à d'autres, à des systèmes soi-disant traditionnels, parce qu'ils trouvaient que c'était la chose la plus pertinente à faire à ce moment-là. Ils l'ont fait, évidemment. Et non, je pense pas du tout. En fait, l'art, c'est pas une question de moyens techniques. Même si, effectivement, on peut en parler, c'est toujours intéressant, mais c'est forcément à chaque fois une question de singularité. Comment on s'approprie ces questions?
En tout cas, c'est clair que les œuvres changent de forme, d'apparence et de manière d'être mises en regard du public. Installations, performances, travail en réseau. Est-ce que, alors c'est évidemment une vieille lune, une question qu'on a 100 fois, 1000 fois posée, mais est-ce qu'on irait vers la fin de la peinture? Peut-être un tour de table rapide sur cette question.
Si je peux commencer,
Pedro, je t'en prie.
Je pense pas du tout. Après, je pense qu'effectivement, ce qui est vraiment intéressant pour la peinture aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait tellement dit, précisément, surtout dans les années 70, genre qu'il y a encore des couvertures d'art presque, hein, que la peinture était morte, qu'effectivement, on était dans le pictural, dans la passivité, etc. Ça, c'est un vrai défi pour la peinture, évidemment. Ça la rend presque excitante, forcément, parce qu'effectivement, quand tout le monde dit, ou qui a envie de croire que la peinture, elle est morte, soi-disant, et elle devient presque rebelle de ce fait-là, en fait, le fait de la pratiquer. Après, je pense simplement qu'effectivement, moi, dans ce que je peux constater, ce que je vois, etc., je vois encore effectivement une peinture qui se réfléchit, qui se cherche, qui, même en assumant effectivement tout ce qu'on a dit, la peinture finie, etc. Et il y a aussi beaucoup de pratiques, effectivement, dans des quantités académiques, mais exactement comme dans la vidéo, comme dans d'autres territoires. En fait.
Piotr Klemensiewicz, la fin de la peinture, évidemment, ça doit vous faire rigoler.
Au début, non, parce que j'étais suffisamment poli et naïf pour penser qu'il y avait un vrai danger, donc j'ai eu peur. Après, j'avais des amis artistes peintres qui commençaient à parler de résistance. Là, j'ai rigolé aussi, parce que je ne voyais pas qu'elle... ou quel intérêt était d'utiliser ce mot. Mais je partage le point de vue de Pedro. Et, sauf que ce qui a été intéressant, c'est que moi, j'ai connu des peintres qui se prenaient pour des héros, qui étaient des hommes, pour la plupart, c'était toujours un milieu assez masculin, et qui étaient les rois du monde. C'est-à-dire, ils faisaient des très grands tableaux, ils étaient le roi du monde. Et donc, peut-être contre cette idée-là de la peinture, il y a eu quelques...
Des gens comme Debré, par exemple?
Ah non, je ne penserais pas à lui. C'est un homme élégant, cultivé. Non, je penserais plutôt au modèle américain, que je personnellement, j'admire, mais en fait, peut-être pas les dernières périodes. Mais il y avait peut-être ça. Ça pouvait être agaçant, et on a vu des luttes féministes, on a vu des gens qui arrivaient avec des travaux qui venaient justement de l'installation et qui avaient cette... Et, mais là, les musées étaient aussi un peu responsables, parce qu'ils ont transporté cette idée de la grande peinture héroïque. Mais pour ce qui revenait... la question de la peinture est-elle morte ou pas, en plus des deux critères qu'a évoqué Pedro, je veux rajouter, c'est que voilà, c'est un peu comme une libération de se dire bon, moi j'aime faire ça, je veux continuer. Maintenant, en dehors, on est dans l'autre espace du travail, on n'est plus dans une obsession de la filiation. La filiation aujourd'hui, elle est avec tous les supports, elle est avec la littérature, elle est avec le cinéma, donc.
François, deux mots pour conclure sur cette question.
Pour conclure,
rapidement, puis après on va passer à autre chose.
Simplement, pour... parler de la mort en art. Il y a en effet des systèmes de disparition de techniques. Depuis la fin des temps, on ne peint plus sur des parois de grottes, par exemple, depuis un certain nombre de siècles. Et la mort est une chose affiliée à l'art. Il y a des systèmes artistiques, je pense à la glyptique qui était la taille sur la pierre précieuse et des choses comme ça, qui ont disparu, mais on n'a jamais parlé de leur mort, parce qu'il y a un remplacement. C'est-à-dire qu'en histoire de l'art, il y a une espèce de génétique de la technique, et on n'utilise plus la pierre noire, on n'utilise plus certains moyens de la Renaissance, mais le dessin existe encore, la peinture existe encore. Quand on parle de mort de la peinture, je crois que l'on oublie qu'il y a des renaissances, et que la Renaissance se fait en peinture sur d'autres moyens, sur d'autres images, affiliées aux nouvelles technologies, à la publicité, à beaucoup de choses, au collage, qui a renouvelé totalement au XXe siècle l'idée de la peinture, et que peut-être qu'une certaine peinture est morte, mais il y en a une autre qui la remplace.
Quelle mémoire peut-on, doit-on garder de la production d'une époque? Comment la transmission s'opère-t-elle? Eh bien, c'est ce qu'on va discuter dans quelques secondes, le temps d'écouter un peu de musique. Transmission, mémoire, mémoire aussi. On va peut-être aborder cette question tout d'abord avec François Balzoli. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESBAM, à l'École d'art de Marseille. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la manière de transmettre les valeurs aux jeunes étudiants en art, aux futurs artistes, au cours de cette triple décade?
Je ne sais pas si vous parlez de véritable évolution ou de mode dont je dirais que les deux s'entremêlent et qu'il y a en effet des changements. Mais ce dont je voudrais parler, c'est la notion d'archive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire sans archive, quelle qu'elle soit, papier, oral, enregistré. On est là aussi dans ce studio, dans des systèmes d'archivage et d'archives. Et il me semble que par rapport avec cette manifestation, l'archive d'une exposition, c'est le catalogue. Et dans le catalogue, il n'y a rien, ni pour reconstituer une mémoire, ni pour situer une galerie. Il n'y a pas de plan, c'est-à-dire que, comme rien ne l'indique, les galeries sont toutes situées au MAC. On peut imaginer Marseille fantasmatique qui se situerait au MAC, ce qui est quand même d'une étrangeté absolue. Et faire une exposition de ce type et de cette envergure, c'était aussi laisser la place à des archives, des interviews de personnages qui ne sont pas sollicités, puisqu'on ne parle que des galeries vivantes, alors qu'il y a eu des grandes manifestations maintenant disparues, mais les personnages qui les ont fait ne sont pas tous disparus. Il y a des mémoires vivantes à Marseille, des artistes, personnes qui ont créé des lieux ou des idées, et c'était le moment de les solliciter. Et peut-être de ne pas faire un inventaire photo, puisque l'exposition pouvait y remédier.
On a évoqué tout à l'heure, quand on parlait du marché de l'art, le rôle des institutions, à un moment peut-être un rôle excessif, en tout cas un rôle qui aujourd'hui apparaît sous une forme de désengagement des collectivités, relatif désengagement du moins, des collectivités locales aussi bien que de l'État, du ministère de la Culture. Les artistes, les diffuseurs, les galeries sont priés de trouver d'autres modes de financement. On voit des personnes courageuses tenter des opérations totalement privées de ce point de vue-là. On voit aussi, on entend aujourd'hui beaucoup parler de grandes fondations, Cartier, Pinault, etc. Mais on a l'impression qu'il y a une réelle dichotomie entre d'un côté ces fondations qui semblent extrêmement bien pourvues et puis des marchés locaux qui, elles, sont dans une situation un peu exsangue. Alors peut-être sur cette question, Piotr et Pedro, du désengagement de l'État et des collectivités, de la nécessité de trouver de nouveaux modes de travail et de diffusion, Pedro.
Bon, je dois dire, effectivement, je profite de ce moment d'ailleurs, parce qu'on est quand même avant 2 mois avant les élections municipales, qui décide malgré tout d'une politique culturelle beaucoup plus que malheureusement les choix du ministère de la Culture, même si on aimerait bien que le ministère participe activement, en tout cas en finançant ce qui sont les politiques culturelles locales. Ils ont presque un rôle très hautain, effectivement, de surveillance, etc. Mais ils participent de moins en moins à ce qui est la politique d'art contemporain, enfin, et même les autres, locales. Ce qui fait que, du coup, effectivement, à 2 mois des élections, il faut le dire, affirmer très clairement, mais alors, de façon très forte, qu'effectivement, toutes ces structures-là, la plupart en tout cas, se trouvent dans une situation toujours très précaire, où il y a effectivement, malheureusement, pas de contrat de travail. Évidemment, tout le monde sait, tout à l'heure on parlait, que les artistes n'ont pas de statut professionnel. Alors, d'où ce fait-là, ils ont créé des associations pour avoir des... Mais aujourd'hui, ces associations, ils ont plus de 10 ans, ce qui fait qu'effectivement, ils se sont professionnalisés, il y a d'autres... Ça a remis en cause d'autres enjeux, effectivement, ils ont un travail accompli, et ils se trouvent quand même, aujourd'hui encore, tout le temps dans une situation où ils sont remis en cause, etc. Je pense qu'effectivement, à 2 mois des élections, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui réfléchit à une politique culturelle par rapport à l'art contemporain dans cette ville, fait un constat nettement, c'est que ces structures, d'une, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas... il y a peut-être un travail à faire aussi de la part des associations, je dirais, dans ce cas, dans la coordination entre elles. Cette année, par exemple, ils ont réussi à mettre en place un guide, ce que je trouve absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment un outil premier, mais essentiel. Et c'est déjà, on amorce une collaboration entre les structures, mais je pense qu'effectivement, il y aurait sans doute quelque chose à faire, d'une part, entre la coordination entre les structures, mais ça on ne va pas l'inventer si ça ne se fait pas entre eux, évidemment. Et après... je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un soutien clair de ces structures. Et peut-être aussi, là, c'est un peu compliqué d'organiser une exposition de ce genre-là, pour faire une sorte de vitrine d'activité, à 2 mois des élections, effectivement, pour dire, vous regardez bien tout de même le travail accompli par ces structures, et ne pas, après, derrière, les soutenir clairement, fortement, et surtout avec cette problématique actuelle, très claire et concrète, je suis désolé de parler de choses aussi concrètes, mais de contrats de travail, qui fait que les structures associatives ont de plus en plus de mal d'embaucher des personnes pour travailler.
François Bazzoli, une réaction peut-être sur cette triple décade, oui, comment on est parti des artistes assistés aux artistes associés.
Surtout une réaction sur ce que vient de dire Pedro, c'est vrai que Marseille Artistes Associés cache le fait que l'an dernier, 3 importantes associations ont mis la clé sous la porte. C'est-à-dire que le Château de Servières, Arthéna et l'Apocope, qui chacun travaillait sur des choses très différentes. L'Apocope était la seule association intermondialiste en art contemporain, et la disparition là est une perte sèche. Tout cela est caché par un étalage, par un effet d'annonce qui, à mon avis, ne traite pas les vrais problèmes pour ce qui est de l'art actuellement à Marseille.
On a voulu être exhaustif, c'est ça. On a voulu montrer une forme de profusion, cette idée un peu récurrente que Marseille est une ville très créative et qu'il y a de nombreux acteurs et de nombreuses associations, et on a voulu mettre ça en avant.
Peut-être, mais en oubliant des associations très importantes, puisque l'exhaustivité ici n'est pas le cas, puisque le Passage de l'Art ou l'Artothèque Antonin Artaud, qui sont les 2 seules structures travaillant en centre collégien ou lycéen, c'est-à-dire avec une surface porteuse d'enseignement extrêmement importante, ne sont pas représentées. Oubli, volonté, on ne sait pas.
Piotr.
Oui, on est en train de dire que la question de ces expositions, c'est qu'elles sont un peu neutres. Moi, c'est pas très méchant en fait, mais c'est un état un peu neutre. Est-ce que ces expositions, par exemple, donnent envie au public de venir voir les expositions dans les associations, dans les galeries associatives ou les ateliers, je sais pas. Mais enfin, sinon, pour répondre à la question du marché ou de l'économie, moi, il m'a été très délicat à une époque de quitter ce système pour des raisons que j'ai évoquées, qui étaient aussi des raisons politiques. J'avais une expérience pour y être allé de nombreuses fois dans les pays de l'Est, en Hollande, en venant dans des tas de pays où l'argent public circulait. J'ai vu les résultats. J'ai fait une exposition une fois en Allemagne avec Jean-Claude Ruggirello et Gérard Tracandi, où on était invités un peu officiellement, et j'ai vu que les gens en face de nous, dans le même lieu, n'avaient pas du tout le même soutien ni les supports, et qu'ils étaient assez ironiques de cette méthode. Donc j'ai réfléchi tout ça. Mais en tant qu'artiste, ça a été délicat, par exemple, même au sein des Beaux-Arts, d'aller chercher depuis déjà des années des gens comme Christian Carassou-Maillan de Vacances Bleues, PBO, parce qu'ils n'avaient pas le vernis art contemporain ou institutionnel dont on parlait tout à l'heure, mais qui ont fait un travail assez intéressant d'acquisition d'artistes de toute génération, et il s'intéresse aussi à d'autres supports maintenant que, après avoir structuré des collections un peu plus solides, ou en tout cas conséquentes de tableaux, à d'autres supports. Mais moi j'ai cette préoccupation, hein, et je parle d'argent, mais c'est très compliqué quand on est dans ce pays de parler d'argent, d'aller chercher à vendre les tableaux de ses étudiants parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est compliqué. Là, de ce côté-là, il n'y a plus de reconnaissance de rien, il y a seulement des procès d'intention.
Pedro l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, cette exposition a quand même été accompagnée avec un certain nombre de moyens, et on a un petit peu peur justement que cette exposition ait vidé les caisses, consacrée éventuellement à l'art contemporain, et qu'il faille attendre maintenant quelques années, voire bien longtemps, avant de voir de nouveau des initiatives dans ce registre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense
Pedro.
Et à la fois, peut-être qu'il faudrait distinguer aussi des responsables par rapport à ces questions. Évidemment, je pense très honnêtement, très clairement, que la mairie de Marseille actuelle est très loin de s'intéresser à l'art contemporain. Ça, je le pense clairement. Je pense aussi qu'en ce moment, effectivement, il y a des personnes qui font le travail à l'intérieur de la mairie, tout à fait, on va dire, quelques personnes, en tout cas motivées, qui essayent, y compris peut-être, pourquoi pas, et sans doute à la direction de certaines structures. Mais le fait, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique claire plus décisionnaire pour qu'effectivement, pour mettre en place une politique, une vraie politique culturelle à ce niveau-là. Parce que je pense qu'au départ, il y a une méfiance aussi par rapport à qu'est-ce que... De quelle façon ça va être porteur. Après, on a des initiatives comme la capitale européenne de la culture, où on essaie effectivement de dire que peut-être ça peut être porté d'un point de vue économique, la culture, etc. Mais pendant ce temps-là, parce que c'est quand même en 2013, et pendant ce temps-là, toutes les structures sont là, on sait se faire un travail conséquent, et qu'on ne peut pas attendre effectivement une date aussi, enfin, un horizon aussi radieux en 2013. Pendant ce temps-là, ils sont en train de tous les jours développer un travail, d'essayer de trouver des moyens pour le développer. Et je pense qu'effectivement, la ville à ce niveau-là, je l'affirme, je ne le vois pas, une volonté politique claire vis-à-vis de l'art contemporain. D'autant plus qu'effectivement, une structure, je pense peut-être que vous avez parlé aujourd'hui, comme les ateliers d'artistes, qui sont sans doute pour moi, de mon point de vue, essentiels, c'est quand même 10 résidences d'artistes à Marseille, d'une durée de 2 ans. Chose qui effectivement permet aux artistes de rester ici, autrement ils vont ailleurs, pourquoi pas. Et du fait qu'il y ait un lieu d'exposition où c'est en plus, où effectivement il y a eu des bonnes expositions ces dernières années, et qu'il faudrait absolument sauvegarder ces 300 mètres carrés de lieu d'exposition, c'est un des plus grands lieux de Marseille, et il est invisible. Je sais très bien que le public ne le connaît pas, ce lieu, mais il pourrait être essentiel, et déjà là, il avait même un budget. Mais par contre, effectivement, il n'avait pas ni d'équipe pour pouvoir le gérer. Il a été dirigé pendant un moment par Thierry Ola. En ce moment, c'est Château Servière qui a une sorte de permis de rester pendant 3 ans.
On va en parler effectivement dans un prochain plateau, puisque je vais accueillir Martine Robin, qui représente cette association et qui aura tout à fait le loisir de s'exprimer sur la précarité dans laquelle elle se trouve. 1977-2007, 30 ans de pratique de l'art contemporain et 30 ans qui aboutissent à cette conclusion, je crois, partagée à peu près par tout le monde. Il y a un vrai déficit d'une politique culturelle qui mette l'accent et qui soutienne clairement l'art contemporain dans la ville. C'est ce que vous ressentez aussi, Piotr, François?
Mais enfin, moi, je pense que le déficit vient aussi de la réflexion, pas seulement de la. Bon, évidemment, la question des moyens économiques, mais aussi de la réflexion. Je veux dire, avec tout cet argent, on a fait quelque chose ou on n'a pas pu faire quelque chose. Et bon, voilà.
Oui, je rejoins Pedro, mais je dirais que non seulement il y a un déficit culturel et politique en art contemporain, mais en ce moment, en art. En général, à Marseille, toutes les grandes expositions que l'on a pu voir il y a 10 ans autour de l'art africain, autour de la faïence et beaucoup d'autres choses ont disparu par manque de moyens. Tout se concentre actuellement à Marseille sur une grande exposition par an. C'est-à-dire qu'il y a les laissés-pour-compte de toutes les manifestations artistiques à Marseille. Comme d'habitude, mais comme le fera le gouvernement actuel, on va penser soigner les déficits en piochant dans les budgets de l'art qui représentent pour le budget de l'État français moins de 1%. alors que l'armée, c'est, je crois, 23%. On ne pioche jamais dans le budget de l'armée. Toujours de l'art contemporain. Peut-être qu'il est plus dangereux que l'armement.
Ça doit être ça. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat, cette discussion. François Bazzoli, Piotr Klementiewicz et Pedro Moraes. Prochain rendez-vous dans cette thématique autour de Marseille Artistes Associés, c'est demain dimanche 20 janvier à 11h, une visite guidée au MAC et autres lieux, une série d'entretiens et de reportages préparés par Anouk Battard. Et le 25 à 18h, second plateau, 30 ans et après, le futur de l'art contemporain en question. D'ici là, chaque jour, des chroniques par Marc Voiry à 15h30 et la rediffusion des excellentes émissions produites par le FRAC et intitulées Radiogramme, c'est tous les jours à 10h. Bonne soirée sur les 3-8 dans quelques instants. It is what it is, une émission de Laurent Garnier.